genèveactive.ch.
Claudine Gabarbet, Les Petits Arrangements, un roman et une adaptation à la scène. Puisqu'on parlait de romancière, il y en a une que j'aurais juste aimé citer brièvement. Elle est italienne, elle s'appelle Patricia Valduga et elle écrit dans Dolor Amoris « Savoir est un tourment à qui c'est le plus la douleur et la plus grande ». Et le personnage de Gilda que vous avez imaginé semble tout savoir des mouvements du cœur et du corps de son ex, pourtant cela ne lui apporte aucun répit.
Disons, la lucidité est une qualité terriblement cruelle comme l'imagination. Savoir ce que fait l'autre, savoir les mouvements du cœur, et savoir les théories du cœur, la logique des passions, n'amène absolument aucun réconfort, parce que l'affect est quand même... L'émotion n'est pas... L'intelligence ne peut pas contrôler l'émotion. C'est le jour où ça sera possible, ça se saura. Donc effectivement, c'est cruel de savoir. En même temps, maintenant, quelques temps après, je le regarde, lui, se débattre dans des affres que moi j'ai dépassées ou comprises depuis longtemps. Donc le temps aide à... C'est des trucs à la Rosette Poletti, j'entends, mais c'est... Le temps aide à faire quelque chose de ce savoir, c'est-à-dire le transmettre, quoi. Et puis, maintenant, le voyant dans lesquels affres il est, la douleur et de l'impuissance de ne pas pouvoir lui transmettre à lui, parce qu'il n'est pas au même point. Donc oui, la lucidité, c'est toujours un 100 mètres d'avance ou un demi-marathon sur quelqu'un qui ne sait pas encore. Donc la mort semble aussi plus proche, l'aboutissement des choses. Je me suis toujours dit dans le même état d'esprit que mon fils Lucien, qui était extrêmement brillant partout, mourrait très jeune. Mais ça, c'est une... Quand il était petit, je rêvais qu'il était sur une balançoire et puis que je l'ai poussé de plus en plus haut et qu'il faisait le tour et qu'il giclait dans le ciel. Et encore maintenant, j'ai le sentiment qu'il va disparaître très vite parce qu'il sait déjà beaucoup de choses. C'est une vieille âme.
Je crois que vous l'aviez dit, la psychiatrie n'a jamais guéri un chagrin d'amour, mais il est aussi question du pardon, et je crois qu'il y a un ouvrage qui a beaucoup compté pour vous, c'est celui d'Oulita Basset, Le pouvoir du pardon. Qu'est-ce qu'il en reste justement de cette notion de pardon, qui n'est pas l'oubli ?
Parce qu'à un moment, je me suis dit, tout le monde me disait, ouais, tu dois pardonner, mais tu dois d'abord te pardonner à toi-même avant de pouvoir pardonner à l'autre. Puis je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à me pardonner, moi, finalement, à part avoir aimé peut-être maladroitement ou trop ou... Mais j'ai rien à me faire pardonner, ni au niveau moral, ni au niveau éthique. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis jamais, toujours restée dans le doute, jamais eu aucune certitude. Mais j'ai compris cette notion de pardon il n'y a pas longtemps, quand j'ai réalisé que ce qui avait été ne pourrait plus jamais être. Plus jamais. Et que se pardonner à soi-même, c'est en fait ce que ça veut dire, c'est pas forcément la foi, mais c'est d'accepter que chaque être humain a une destinée. Si on regarde en arrière, c'est chaque fois un roman. Et que quand on a passé un peu de temps, ben on se rend compte que tout est parfaitement logique dans tout ça. Et qu'il y a une part qu'on ne maîtrise pas. Et le pardon, c'est simplement l'acceptation de l'impuissance. Pardon par rapport à soi, c'est accepter son impuissance. Et donc à partir du moment où on accepte ça pour soi-même, ben on l'accepte pour tout le monde. Mais quand même, je crois de plus en plus en Dieu.
Est-ce que le pardon implique une notion de faute, si on est dans le cadre du judéo-christianisme, ou peut-être même ailleurs, hein, si on pense aux folles, aux maires de la place de Mai, ou à d'autres qui refusent justement que l'oubli soit le seul linceul des fils qu'elles n'arrivent pas à retrouver. On pourrait prendre les mères en Tchétchénie. En même temps, il y a cette nécessité de ce qu'on appelle la résilience. Ce travail de deuil que beaucoup d'auteurs ont dit refuser, hein, je pense, disons alors là, des deuils intimes, c'est notamment le cas de cette autrice française qui refusait de faire ce travail de digestion qu'on lui imposait par rapport à son enfant mort. En l'occurrence, c'était Camille Laurence qui disait, voilà, le travail de deuil, c'est pas un travail de pardon, de digestion, comme ça, où on passe par des étapes. Alors, le rapport entre le pardon et les torts,
la seule chose qu'on demande à obtenir, on ne peut pas obtenir réparation, jamais, de tous les actes qui ont été faits contre nous, pauvres âmes humaines, individuellement, on n'obtiendra jamais réparation. Il n'y a qu'à... Enfin, c'est soi-même. Soi-même, tout seul, on peut dire, voilà, je n'obtiendrai pas réparation, c'est un constat. Qu'est-ce que je vais faire avec ce qui reste ? À un moment donné, dans ma période de rage, je me disais, la résilience, c'est super, t'as pu sortir des trucs. Je disais, mais bon, c'est comme un type qui a perdu un pied, puis qui fait les championnats olympiques, paraolympiques, puis qui descend un slalom sur une piste noire, puis qui sort premier, c'est super, il a une médaille, mais il rentre à la maison, il a toujours un pied en moins. Hein. Donc la résilience, elle a bon dos parfois. En tout cas, avant que le temps mette sa patine, je trouve qu'elle a bon dos.
Mais quand vous parlez des Jeux paralympiques, Claudine Gabarbet, c'est en fait pas vis-à-vis d'un membre qui est toujours manquant qu'on va prolonger par une prothèse et dans le cadre d'une rupture.
Les douleurs fantômes, ça. Voilà. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Alors non, c'est pas remplacer par une prothèse, c'est vivre sans. Regarder son pied, puis se dire voilà, j'ai un pied de moins. Ça me fait 5 orteils, d'ongles d'orteils de moins à me couper une fois par semaine. C'est transformer le manque par d'autres avantages, voilà, en se disant... là, maintenant, je me rends compte que je peux aider beaucoup de femmes que je rencontre ou d'hommes que je rencontre qui sont dans cette douleur-là. Au début, on est seul dans sa douleur. Quand on vous dit « Ah, mais t'es pas la seule, t'es que la 100 millionième », tu dis « Vos gueules, je souffre comme personne ». Puis plus on avance, plus on se rend compte que y a une empathie qui se crée dans la souffrance qui est utile. C'est banal ce que je dis, mais c'est une réalité de vie.
Cette réplique que Marc Donnet-Monet vous donne, puisque vous êtes cette Gilda sur scène qui dit à une autre personne que ma femme ne supporte pas que je m'écarte d'1,50 m du mur de la maison familiale. On a un petit peu l'impression à la lecture et sur scène que cette Gilda est à la fois quelqu'un qui pousse l'être aimé, plus aimé ou aimé d'une manière différente.
C'est vraiment une intuition qu'a Gilda à ce moment-là, de Pénélope, de dire « tu es malheureux maintenant, il faut que tu existes par toi-même ». Et sans forcément imaginer les conséquences. Moi, je n'ai jamais imaginé les conséquences de ce que j'avais fait, de ce que j'avais poussé l'autre à faire en disant « mais travaille, sors, vois du monde, etc. Mais ne pars pas ». Et puis, c'est vraiment une... Testons, allons-y, finissons-en, parce que aimer, c'est aussi une douleur. Finissons-en, allons voir maintenant, allons jusqu'au bout. Et puis l'autre saisit ou saisit pas, et Ulysse saisit, là, en l'occurrence.
Mais donc, c'est Gilda, pour remettre les choses à deux noms, l'un symbolique, l'autre quotidien. Elle est d'abord enchantée par ce personnage mythologique, Ulysse, qui possède aussi la ruse, l'ambition, un regard de requin. Elle a ce désir de se faire vraiment enchanter, de ce rapt amoureux, quelque part, de cette première surprise, d'une relation fusionnelle, de la passion, mais que vous dites qu'elle n'a aucun regret d'avoir vécu cette passion. C'est-à-dire peut-être le chagrin qui marque la fin d'une passion et dans son amplitude à l'échelle, justement, de cette passion même. Mais sur cet enchantement au départ, c'est quelque chose, justement, vous dites, on n'apprend pas au travers de l'amour. Quelque part, on arrive toujours à se réenchanter d'une certaine manière.
Moi, je crois, oui. On arrive vraiment à se réenchanter puisque ça provient de cette première fusion. Donc, on aspire qu'à ça toute sa vie. On aspire qu'à ce refusionnement, à cette reconstruction et à un monde où il y aurait de moins en moins... aucun espace libre entre l'autre et nous. Je crois que c'est vraiment l'essence. C'est en cela que je dis qu'il y a une racine commune à tous les êtres humains. C'est cette première fusion, et je crois que toute sa vie, on essaie de reconstruire ça, tout le temps.
Vous le citez aussi dans le roman, ça paraît peut-être moins dans sa transposition, transfiguration scénique, dirions-nous. C'est l'aspect de l'être à Ulysse, ce caractère épistolaire, j'entends qu'on rencontre dans le roman du 18e, Choderlos de Laclos ou d'autres... cette forme de correspondance amoureuse, c'est en même temps, il y a une lettre de l'un à l'autre et de l'autre à l'un.
La lettre d'Ulysse à Pénélope, ça a été la première chose que j'ai écrite de ce roman. Et je l'ai écrite pour cet homme, parce que j'avais deviné. Je l'ai écrite en une nuit, parce que je savais que quelque chose s'était passé, mais je ne pouvais pas en parler autrement qu'en l'écrivant. Et quand il l'a lu... Il s'est effondré en larmes, m'a dit « c'est vrai, tout ce que tu écris est vrai ». Et c'est ce qui a créé la rupture, en fait. Si je n'avais pas eu l'indécence ou la lucidité de nouveau, parce que souvent ça va de pair, de lui confier ce texte. Peut-être qu'il aurait eu simplement cette aventure avec cette femme sans que ça porte à conséquence. Mais malheureusement, j'ai senti. Donc c'est pour ça que cette lettre est longue. Parce qu'elle raconte un voyage d'une semaine et que j'ai dû imaginer ce qui se passait dans sa tête à lui pendant tout ce temps-là. Et puis la réponse est une réponse que je n'ai jamais donnée, que j'ai jamais écrite, que j'ai jamais envoyée. Parce qu'il y a un moment donné où il faut savoir qu'il vaut mieux se taire, il vaut plus, mieux ne rien dire. Tout ce qu'on dit est inutile dans ces moments-là, vraiment. Il n'y a qu'à fermer sa gueule et rester impuissant et accepter. Et tous les mois qu'on passe après, les années qu'on passe après, c'est accepter, c'est faire ce constat d'impuissance et vivre avec.
Lorsqu'on vous demande justement si ce roman est autobiographique, vous dites non, parce qu'effectivement, vous diffractez, vous reclassez, vous rebattez un certain nombre de cartes du vécu d'une autre manière. Il y a des noms qui circulent comme ça, des mots ou des situations un petit peu balises par rapport à une vie, mais qui en même temps, là, sont amenées dans un autre cadre. Pourquoi avoir imaginé, en fait, ce dialogue entre un canevas épique, Pénélope et Ulysse, qui est aussi une relation très intime, puisque Ulysse est quand même, de ce que j'en ai retenu, un des héros les plus obscurs qui ait jamais été imaginé. On sait très peu de choses sur ses motivations, sur sa psychologie intérieure aussi, telle qu'elle est racontée, ouais. En tout cas.
C'est-à-dire, il est double. C'est un être qui est double. C'est un être qui est à la fois terriblement héroïque et terriblement lâche. C'est que c'est un... À mon avis, j'ai lu plusieurs traductions de l'Odyssée. Et lu beaucoup d'ouvrages de psychanalyse, enfin autour de la mythologie, je me suis rendu compte que c'était un personnage qui était vraiment double. C'est quelqu'un qui avait un besoin de reconnaissance immense, qui était vraiment dans le paraître et dans l'héroïsme à ce niveau-là, et puis quelqu'un qui subissait les choses. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est que le parallèle, je l'ai fait là, dans les assauts répétés que la société... Enfin, que notre monde mette à la disposition d'un être masculin. Je ne parle pas seulement des femmes, hein, je parle de l'héroïsme en général. Enfin, que je fais de ma vie, j'aurais dû partir marin à Hambourg sur un bateau au lieu de faire mes études de droit. J'entends ce rêve qui ressurgit à l'andropause, à 50 balais, qui est... C'était quoi ta question ?
Oui. Non, par rapport à l'articulation entre effectivement ce récit, ce personnage mythologique et puis ce récit de la fin d'une liaison ou d'un état de couple. Pourquoi justement ce choix ? Parce qu'en plus ça ne suit pas, enfin j'entends on n'est pas dans la littéralité, mais ça ne suit pas tout à fait le canevas d'Homère.
Pas du tout, parce qu'en plus dans l'Odyssée d'Homère, on ne parle que du retour d'Ulysse. Donc toute cette odyssée n'est que, à partir de la guerre de Troie, j'entends, le récit, c'est le retour d'Ulysse. Donc si peut-être que c'est un acte inconscient hein, que j'ai fait là, mais c'est le chemin qu'il doit prendre et les écueils pour revenir sur son île, pour retrouver sa place, mais habillé en mendiant, et être reconnu par ceux qui l'ont aimé. Comme ça, après avoir traversé... C'est ça qui m'intéressait. Moi, j'ai été bercée par la mythologie et que c'est vraiment pour moi la source de tout. C'est la Bible des athées pour moi. Vraiment, ça reste la Bible des athées. Il y a tout, il y a absolument tout dans ce truc.
Je crois qu'il y a quand même une référence, enfin, que vous aviez nommée peut-être, qui est la vie de Pénélope, que je ne connais pas, que j'ai cherché dans toutes tes librairies, dans toutes tes bibliothèques, que je n'ai pas trouvée. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette vie de Pénélope, justement ?
Pénélope, elle attend, elle doit gérer toutes les affaires, c'est-à-dire tout le quotidien. Maman, je ne veux pas aller à l'école. Si, tu dois y aller. Non, mais il est déjà 7h20, viens te laver les dents. Enfin, toutes ces choses qu'Ulysse, dont Ulysse n'a même pas idée. Et puis, c'est tenir le coup sur la durée aussi. C'est repousser des prétendants parce qu'on est sûr, au fond, que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc l'autre va revenir. C'est arriver à tenir debout sans aller 12 fois par jour sur le rivage, voir si on voit la voile noire ou la voile blanche. C'est cette force des femmes, moi j'ai envie de dire, sans être féministe, je dirais que c'est quand même une force sur la durée, quoi. Parce que les hommes ont moins que les femmes. Les hommes, il faut que ça soit ponctué quand même de choses bien précises, tandis qu'une femme, je crois qu'elle peut tenir très très longtemps. Par amour.
Alors, dans la scène de Bergamote et l'ange où vous attendez au restaurant, il y a une attente qui est à la fois porteuse d'espoir au départ, puis qui après, c'est tout un mouvement déceptif où tout ce qui était merveilleux devient odieux, médiocre par rapport à ça, l'attente qui est à la fois sublime et détruit. Est-ce que cette capacité pour vous d'attente, elle est vraiment spécifiquement féminine dans cette durée ? Parce qu'elle génère.
Les hommes à sensibilité extrêmement féminine, les femmes avec des sensibilités masculines. Mais je crois que l'attente, elle génère simplement le fantasme. Et que si on a le talent de pouvoir faire quelque chose avec ce fantasme, c'est ce qu'on appellera la résilience. Et je pense que plus on a de capacité sur la longueur à attendre, plus les œuvres sont conséquentes. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Mais l'attente est effectivement un moteur formidable pour la création.
J'ai eu l'impression, peut-être parce que je sais naturellement que vous appréciez notamment des romancières comme Anita Bruckner, de retrouver quelque chose de la vie quelque part. C'est-à-dire son roman, Le portrait d'une femme attachante, ici c'est Gilda, mais à l'existence étriquée, dont le désir ou peut-être la soif d'aventure ont été brisés par le destin et la solitude. Alors est-ce que c'est justement cette femme avec une existence trop petite pour elle ou Gilda ou...
Non, ce qui est pas, ce qui est dans le roman, Gilda a deux enfants. Elle n'est pas comédienne, hein, elle est serveuse. Enfin, elle travaille pour vivre. Et à mon avis, le personnage n'a pas une vie trop étriquée, non ? Non, non. Je crois qu'elle a une vie. Je crois qu'elle a un idéal qui est insoutenable, par qui que ce soit d'autre, que par elle. Elle met la barre très très haut et puis... Alors en ce sens-là, oui, peut-être que c'est étriqué. En même temps, si tu regardes des flocons de neige, des grains de sable, des étoiles ou des vagues, il y a combien sur la masse neige, le phénomène étoile, le phénomène sable, il y a cette notion d'infini, de multi... Chaque flocon est différent, chaque grain de sable est différent, etc. Pourtant, ça reste le sable, la neige, les vagues.
Mais vous avez cette capacité de vous ancrer à certains moments donnés sur le flocon ou le détail, comme dans le chapitre Le petit voyage de Pénélope, où on retrouve Gilda, bébé Simon, la pensée partie à la dérive, comme vous dites, avec une vision peut-être, je dirais, à très courte focale, flottante, incertaine, où il y a toute une succession de... comme ça, de cristallisation sur des éléments du décor, de détails sensoriels, où on vous retrouve évidemment dans les papiers que vous publiez dans Le Temps ou dans d'autres, bien sûr. Parce qu'on vous retrouve donc dans ce petit voyage de Pénélope, dans une Grèce de périphérique, sale et indifférente. C'est plus du tout la Grèce mythologique. D'ailleurs, quand on prend par exemple Oedipe à Colone, quand François Rochelle avait monté, ben, à l'endroit même où c'était situé, il y a un garage, c'est une espèce de banlieue qui a été plus ou moins reproduite sur scène, un peu à l'état entre chien et loup. Et puis là, cette vision justement de la Grèce et de ce voyage, qu'est-ce qu'il en était ? C'est, elle retrouve accès à la mer, après à la peinture par ce biais-là.
C'est un moment purement autobiographique, ça. Donc c'est difficile pour moi d'en parler autrement que comme ça. C'est la décision de partir là-bas, à ce moment-là, alors que le reste du monde nous est devenu complètement... On n'a plus accès au monde. C'est de prendre le risque de prendre son enfant par la main, puis de dire, viens, on va voir si on est capable encore de... Et j'y suis allée, je crois que ça a été un de mes premiers fondements de doute à propos de la foi, c'est cette pieuvre. Mon petit garçon a toujours été terrorisé par les pieuvres. Et le fait d'avoir vu cette pieuvre, à qui on pouvait lancer un bâton comme un chien, et qui nous ramenait le bâton, d'avoir été happé par cette tentacule hors saison, pas dans la mer, ça m'a fait un effet tellement... une consolation immense. Et ce voyage, en fait, ça a été une consolation immense. Mais je ne sais pas pourquoi encore, je crois. Je ne sais pas pourquoi ça a été si consolant. Peut-être parce que je me suis aperçue que la terre portait mon chagrin aussi, qu'elle me berçait, alors que c'était pas forcément... que le monde n'était pas devenu hostile, mais qu'au contraire, il m'était devenu... Il était amical. Enfin, à cause de ces petites choses que la vie m'a montrées là-bas, que ce voyage m'a montrées. Des images, des hasards étonnants.
C'est une manière de se réapproprier le monde.
Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a encore des endroits qui me sont totalement inaccessibles. C'est pas encore fini.
Quand on lit votre roman, on a l'impression, le terme est un peu galvaudé, mais d'un roman choral, c'est-à-dire comme un film choral tel que Babel, où chaque personnage a son point de vue, qui ne se recoupe pas nécessairement, même si c'est extrêmement bien dramaturgisé. Et qu'est-ce qu'il en était justement? Je crois que votre idée, c'était vraiment que chaque personnage puisse amener son point de vue.
Oui, c'était qu'il y ait ça m'ennuie justement par rapport à l'histoire judéo-chrétienne de la culpabilité, c'est de sa faute, c'est lui le méchant, c'est la gentille, etc. J'ai anticipé en fait sur ce que je savais allait de ce que je savais qu'allait devenir mon pain quotidien, c'est-à-dire me rendre compte qu'il n'y a pas de fautif dans aucune situation. Chacun a un regard sur les choses. C'est le regard subjectif. C'est la physique quantique. C'est l'effet papillon. J'entends. Il n'y a pas de méchant et de gentil. Il y a des actes irresponsables. Qui sont payés après. On s'en rend compte. Et pas parce que Dieu a dit ouh, tu as mal agi, tu as été le méchant, donc tu vas en prendre plein la gueule. Non, tout se justifie. Moi, avant de tomber amoureuse d'Ulysse, j'étais amoureuse d'un homme que j'ai quitté pour Ulysse. J'ai la chance d'avoir de l'empathie, donc j'ai aussi beaucoup souffert de cette séparation. J'ai beaucoup donné, même si j'ai beaucoup repris. Mais maintenant, je peux mieux concevoir. J'ai dit, voilà, c'est un juste retour des choses, plutôt que de dire, voilà, c'est bien fait pour ta gueule. C'est juste, maintenant, je peux prendre en compte, rétrospectivement, ce que mon ex-mari a ressenti. De nouveau, le facteur temps est seulement une vie est courte, c'est ça qui est terrible.
Ce qu'on ressent aussi, c'est qu'il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire le titre même du livre, Les petits arrangements, si on regarde de plus haut, le parallèle avec la mythologique, c'est que chacune de ces figures mythologiques, mais aussi terriblement humaines, a des excuses.
Oui. On a tous des excuses, même le pire des pédophiles a des excuses. Après, là où on n'a pas d'excuses, c'est de s'arrêter. De s'arrêter et de ruminer, et d'être amer et de ne pas aller plus loin, là, on n'a aucune excuse. Tout le monde n'en est pas capable, en plus. J'entends quand on a... Il ne s'agit pas, parce qu'on a perdu un fils, d'ouvrir une fondation pour les enfants. Il ne s'agit pas... Tout le monde n'a pas les capacités de faire ça. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est en tout cas de ne pas rester sur... De ne pas devenir amer, méchant, généralisant toutes les situations... Voilà, je me fais inquiéter, tous les hommes sont des salauds. C'est juste de profiter de cette expérience. Mais ça me paraît tellement con ce que je dis. Profiter de cette expérience et puis grandir. Puis aller, on ne sait pas où on va. C'est ce que Cohen appelle la tendresse de pitié. On n'a pas d'autre choix. La seule chose qu'on sait qui nous attend tous, c'est la mort. Et on ne sait pas ce qu'elle est, ni où, quelle forme elle aura. Donc, ne serait-ce que pour ça... On doit aller en tendant la main et puis on doit aller en essayant de changer tout le temps, d'évoluer tout le temps. Moi, les gens que je déteste le plus, c'est ceux qui se sont arrêtés et qui ont des principes en général.
Alors, dernière chose, justement, en quoi la rupture de Gilda peut-être s'apparenter à une déflagration intérieure, peut-être pire que le deuil? Quand on suit des histoires amoureuses, que ce soit par le biais de romancés ou par le biais de témoignages, on se rend compte quand même que dans la dimension de la rupture, il y a beaucoup de choses qui sont sous-estimées. Pourtant, ça interroge la majorité d'entre nous, ça engage des moments cruciaux de notre histoire à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de femmes et peut-être d'hommes qui ont témoigné à la fois au niveau de vos récits radiophoniques ou de vos récits romancés, du fait qu'ils se reconnaissaient justement dans ces situations, c'est-à-dire cette déflagration intérieure, peut-être pire que le deuil, sur le rapport au deuil justement et à la perte, qu'est-ce qu'il en est ? Dans les petits arrangements.
Dans les petits arrangements, il y a cette espèce de douleur immense qui est ingérable, qu'on a le sentiment d'être le premier au monde à souffrir pareillement, et ça, je crois que j'ai assez réussi à le montrer dans l'écriture. Elle est sûre qu'elle est la seule qui souffre comme ça aussi fort. Et puis, je me disais, L'abandon, bah, j'ai aussi un passé hein, qui fait que j'ai été peut-être prise plus longtemps et plus fort dans cette problématique d'abandon. Mais c'est l'autre est toujours là, il est vivant, il vit, il respire, et simplement il ne vous aime plus. Mais il est là, donc le monde lui appartient. Il y a une espèce d'arrogance. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'il n'y avait pas d'arrogance, qu'il y avait la même médiocrité. Mais au début, on voit l'autre comme un conquérant, vraiment, qui parcourt les mers, qui réinvente tout, qui est fort, jusqu'à qu'on s'aperçoit bah, que... Non, pas du tout, ça ne se passe pas du tout comme ça pour lui. Et puis l'autre chose, je pense que la chose qu'un homme tue ou qu'une femme tue en partant, en sortant d'une passion, en sortant son pion de l'échiquier de la passion, c'est le rêve. Et je crois que c'est la pire chose qu'on puisse prendre à un être humain. Je pense à Emily Dickinson qui a fini recluse, mais de chez recluse. On lui a pris son rêve. Et son rêve, son idéal, ça peut avoir le mot que ça veut. Mais je crois qu'en tuant une passion, on tue un rêve de vie. Un rêve, et c'est terrible. Un être qui meurt, j'ai perdu des gens dans ma vie. Hein. Mais, par exemple, j'avais un enfant. Mais autour de moi, des gens que j'aimais, d'abord, il n'y a pas de notion de culpabilité si on a eu une relation avec cette personne qui était une relation d'affection profonde. Parce qu'on peut toujours parler aux morts. C'est des conneries de dire « règle ton histoire avant qu'ils partent ». On peut toujours aller leur parler, il y a plein de moyens. Sans être mystique, j'entends, mais on peut le faire à travers justement l'écriture, la prière, promenade dans la nature, des moments retrouvés. Si on sait regarder, on peut toujours parler dans tous les mondes parallèles, à sa mémoire, au futur, on peut parler à tout. Mais la seule expérience qui me paraît pire qu'un rêve tué, c'est le suicide d'un enfant. Ça, c'est une chose qui reste pour moi totalement ingérable. Je connais plusieurs personnes qui ont perdu un enfant. Et c'est quand même la pire chose qui puisse arriver, bien, bien pire que la mort d'une passion, mais... Mais dans l'échelle de valeur, je mettrais... Oui, ça va peut-être paraître odieux ce que je dis, mais je mettrais dans l'échelle des valeurs enfin de souffrance, pour moi, la mort du rêve, non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas parce que ça implique. La mort du rêve et le suicide d'un enfant, c'est les deux derniers stades. Et je ne sais vraiment pas si je peux mettre la mort d'un enfant, mort accidentelle, avant ou après, dans cette échelle-là. Je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas vécu. Mais puis parce que j'ai un rapport difficile avec la culpabilité. Donc je me dis, si un de mes enfants se suicidait, je pense que ce serait pour moi totalement inacceptable et que je n'y survivrais pas.
Mais justement, vous préparez un roman autour du rêve. Est-ce qu'on peut dire que le rêve peut comme ça se balader tout nu dans la rue, sans s'incarner quelque part, et quitte à être déceptif, quitte à changer de nature, peut-être qu'est-ce que vous en avez retenu peut-être pour ce roman en préparation, notamment autour du rêve?
J'ai fait des rêves. Ça fait une année que je note mes rêves. Pour moi, pas pour une thérapie quelconque, mais parce que j'ai fait un ou deux rêves tellement surprenants, est tellement effrayant qu'il m'est venu à l'idée de les noter pour m'en débarrasser, puis surtout en me disant « mais tu es complètement folle, ma vieille ». J'ai rêvé une nuit que j'étais dans une espèce d'immense salle de gym. Il y avait des gens, très bas, normaux, mais en bas, qui se promenaient, comme dans la série Jean Lost. Ils marchaient Non, pas Lost, l'autre histoire, là, où ils sont... c'est tous des mutants qui viennent d'une autre génération. Je sais plus... Un truc, je sais pas, c'est série, bref, il marche sans se voir. Et puis moi, je sentais les gens qui étaient possédés par le diable. Diable, force du mal. Et j'arrivais, je sentais la chaleur entre les omoplates de ces personnes qui avaient le mal en elles. Et c'était un combat entre moi et le diable. J'arrivais à monter, avec la force du magnétisme, j'arrivais à monter, tout en étant ciblé sur ce mal dans le dos de la personne. Il y avait des enfants, des gens que je connaissais, que je ne connaissais pas. Et quand j'étais à peu près à mi-hauteur du sol, j'arrivais à sortir, à me battre avec le diable et à libérer ces personnes du mal et à le prendre sur moi. Et plus je le prenais sur moi, plus ça m'affaiblissait. Et je me suis réveillée dans un état, j'ai vraiment eu la trouille. Je me suis dit, ok, ou bien t'as décompensé, ou bien t'as fumé un truc. J'avais pas spécialement bu, c'était foudroyant ce rêve. Et ça, j'ai commencé à noter mes rêves à ce moment-là. Et du coup, j'en ai noté pas mal. Et puis je me suis dit, et si, maintenant que j'ai écrit un roman de résilience sur la fin de cette passion, si maintenant je dégommais tout le monde? Donc, utiliser le rêve, c'est-à-dire l'idéal, enfin, avec une espèce de déformation, mon personnage va être passablement giclé, je pense, mais utiliser ça pour régler des comptes aux gens, tant qu'on a ce sentiment de toute puissance, voilà, puis on va se promener à la Migros, puis on voit quelqu'un qui est désagréable avec quelqu'un d'autre. Bon, ben, ça peut devenir un flingue, hein, assez facilement. La chose, alors, il suffit de trouver un étalage un peu plus haut, puis viser entre les omoplates, et puis voilà, le diable est parti. Donc je me disais, je vais faire un truc, je rêve d'écrire un polar depuis toujours, donc je me disais, je vais faire l'histoire d'un serial killer qui dégomme tout le temps, qui dégomme les gens de façon complètement aléatoire à cause des rêves qu'elle fait. Donc pour le flic, ça va être très très difficile à trouver qui c'est. Genève Active.ch